Au fait, est-ce que vous avez entendu parler de cette histoire de fou? Je vous vois d'ici dire que c'est encore une histoire de journalistes qui adorent regarder leur nombril. Mais en fait, non. Le sujet dont je vais vous parler est une sorte de parabole de l'état politique de la France, décidément une démocratie de basse intensité, de l'entre-soi, des petits arrangements un peu indécents entre les médias installés et les pouvoirs établis. C'est un numéro spécial de l'actu démasqué. Hier, le site d'information Arrêt sur Image a publié une enquête intitulée « Au point presse de l'Élysée, plus d'images des journalistes ». Et deux des personnages de cette enquête sont bien connus par les téléspectateurs fidèles du média, notre journaliste Jemil Chandler et la journaliste indépendante Myriam Laribi, qui nous a souvent fait l'amitié de venir sur notre plateau. Au commencement, il y avait un point de presse bien pépère entre journalistes de l'association de la presse présidentielle, bossant pour des médias bien comme il faut, propriété de la puissance publique ou de milliardaires. Un point de presse organisé tous les mercredis après le Conseil des ministres, ouvert à tous les journalistes disposant d'une carte de presse et diffusé en direct sur les plateformes sociales de l'Élysée. Un point de presse où le droit de relance existe, contrairement à de nombreux autres organisés au sommet de l'État, mais j'y reviendrai. Mais ne voilà-t-il pas que des journalistes indépendants, un peu trop mal élevés pour nos dirigeants, décident progressivement, comme ils en ont le droit, d'investir ce lieu de transparence républicaine ? Pour poser les questions qui fâchent et suivre, semaine après semaine, les sujets brûlants. Myriam Laribi, par exemple, se pointe à l'Élysée depuis décembre dernier pour poser des questions pertinentes sur la situation en Palestine et la position souvent illisible de la France. Un exemple de question posée le 12 décembre dernier.
À Gaza, le 10 novembre, l'hôpital Al-Nasr a été évacué de force par l'armée israélienne. Le personnel médical ainsi que tous les patients ont dû évacuer l'hôpital en 30 minutes. Il y a eu de nombreux morts parmi les patients à ce moment-là. C'était le 10 novembre, c'était avant la trêve. Pendant la trêve, les corps de 4 bébés ont été retrouvés en état de décomposition avancée dans cet hôpital. Le directeur de l'hôpital Al-Nasr assure qu'il avait prévenu les officiers israéliens de la présence de ces 4 bébés qui étaient intransportables, qui étaient sur leur lit d'hôpital branchés aux appareils qui permettaient de les maintenir en vie. Ils ont été abandonnés, sont morts dans le froid et leurs corps ont été retrouvés en état de décomposition avancée. Ma question est la suivante. Le gouvernement compte-t-il réagir à cet événement particulier et plus largement au sort des 7000 enfants tués à Gaza, par exemple, en plaidant en faveur d'enquêtes internationales indépendantes qui permettraient de faire toute la lumière sur ce que de nombreux observateurs qualifient de crime de guerre?
Ça, c'est de la question, on est d'accord. Précise, documentée, sur un sujet à la fois douloureux et d'intérêt public. Un sujet qui nous rappelle à tous l'humanité des Palestiniens que certains voudraient oublier de temps en temps. Écoutons la réponse d'Olivier Véran, alors porte-parole du gouvernement.
J'ai entendu votre question.
Le gars fait carrément un geste des doigts pour expliquer que la question qui lui est posée n'est pas une vraie question. C'est une question entre guillemets. Pourquoi ? À votre avis. On continue.
Madame, je vous rappelle la volonté de la position de la France. Elle n'a pas varié d'un iota depuis le premier jour. Notamment sur le plan humanitaire, où la France a une grande expérience, une grande expertise reconnue mondialement en matière de soutien humanitaire. C'est pourquoi d'ailleurs la France a envoyé un navire, vous le savez, le Dixmud, qui accueille et soigne de nombreux blessés palestiniens à Gaza. La France appelle à la trêve humanitaire qui doit conduire à terme à un cessez-le-feu. Et la France fait tout ce qu'elle peut auprès de l'ensemble des partenaires régionaux, mais aussi internationaux, pour que cette parole et ce souhait d'une trêve humanitaire qui puisse conduire à un cessez-le-feu soit entendu. Et la France fait évidemment partie des institutions nationales, internationales qui sont amenées à être saisies lorsque la situation l'exige et à se prononcer sur des différents actes qui peuvent être commis.
On est d'accord, il n'a pas répondu à la question et Myriam a eu le mauvais goût de la reformuler.
Mais plus de 7000 enfants sont morts, tués sous les bombardements. Est-ce que la France compte appeler à des enquêtes internationales pour faire la lumière
Je vous réponds que la France fait partie des instances internationales qui sont chargées justement des enquêtes lorsqu'elles sont conduites. Et donc à ce titre, la France s'inscrit pleinement dans le fonctionnement des institutions internationales.
On retiendra qu'Olivier Véran n'a même pas voulu déplorer la mort de ses enfants palestiniens, n'a même pas voulu les évoquer. C'est ravageur, c'est instructif. Des journalistes qui posent des questions qui fâchent, ça change, n'est-ce pas? En plus de Myriam, un autre indésirable s'est invité au point de presse de l'Élysée sur une base hebdomadaire, c'est Jamil Chanle du Média. Pour lui, tout commence en janvier quand une accréditation à une conférence de presse d'Emmanuel Macron lui est refusée, parce qu'il n'y a pas de place. Qu'à cela ne tienne, il ira chaque mercredi au point de presse de l'Élysée, et son truc à Jamil, c'est de faire comme l'inspecteur Colombo, de poser plusieurs fois, réunion après réunion, les mêmes questions sur des faits que son interlocuteur ne peut plus feindre d'ignorer.
C'est une question que j'aurais souhaité poser à M. Darmanin, qui était tout à l'heure avec nous, mais malheureusement, il n'était pas là pour ça, manifestement. Donc je vous la pose. Alors, lundi, le parquet national antiterroriste annonçait qu'un suspect avait été mis en examen et placé en détention provisoire pour, je les cite, « terrorisme d'ultra-droite ». Libération nous informe au passage que cette interpellation, je les cite aussi, n'est qu'une étape dans un dossier d'association de malfaiteurs terroristes pour une vaste implication, impliquant notamment des militaires français, un militaire français et un ex-membre des forces de l'ordre françaises. En parallèle de ça, le média Au Poste révèle que le chauffeur d'un ponte de la police judiciaire parisienne exhibe une casquette SS dans son bureau et un policier municipal parisien aborde lui, un tatouage, soleil noir. Vous connaissez sans doute le signe nazi qu'il est. Alors nous en parlions ensemble il y a 3 semaines, lors de ma dernière visite ici, de ces policiers, d'agents de police, mais aussi diverses forces de l'ordre, réunis dans des groupes. Vous savez peut-être que depuis 3 semaines, vous avez pu vous rendre compte de la chose. Des groupes d'échanges WhatsApp, Telegram, où des messages haineux et illégaux circulent entre eux et entre elles. Groupes qui permettent, tout du moins entretiennent, ce terreau qui permet ces échanges-là et des comportements factieux au minimum. Il y a 3 semaines, on en parlait et vous n'étiez pas au courant de cela. Alors, à la lumière de ces nouveaux faits, je réitère ma question. Puisque les syndicats et directions de police elles-mêmes, les directions, sont inquiètes, disent inquiètes de cela et peuvent contenir ces problèmes, quelles sont les mesures mises en place par l'État pour résoudre et manifestement aller contre ce qui gangrène notre police, puisque ça n'a rien à faire dans nos rangs de policiers?
Il est pénible, hein ? En tout cas, la nouvelle porte-parole Prisca Thévenot le pense et n'arrive pas à le cacher, comme le laisse voir un montage de Bertrand Chamerois sur France 5.
C'était donc jour du compte-rendu de Conseil des ministres avec la toujours aussi sympatoche Prisca Thévenot. Love is definitely in the air with les journalistes.
On n'était pas dans l'échange entre Emmanuel Macron et Emmanuel Bompard. Okay. Emmanuel Bompard, je suis désolée.
Très bien. Une deuxième question.
Il faut prendre acte, hein, je veux dire... Là, c'est assez simple et basique. Est-ce qu'on peut de temps en temps se satisfaire aussi et se réjouir de ce qu'on fait en France?
Bah ouais, mais c'est pas anodin. Merci à vous.
Merci, avec plaisir.
Bref, plus les journalistes viennent squatter là, plus le petit point de presse sympa entre poteaux devient désagréable. Et ce n'est pas Prisca Thévenot ni les attachés de presse du gouvernement qui vont se charger de le faire savoir, mais des journalistes de médias mainstream. Jamil a raconté comment ça s'est passé le 21 février dernier.
Alors, il faut imaginer la scène. C'est-à-dire que là, une fois que les caméras s'éteignent, eh ben, nous sommes toutes et tous ensemble, debout, autour d'un mini-buffet assez chic. C'est sympa. Depuis quelques temps, ils ont mis ça, où on peut boire un verre et discuter, etc. Et pendant l'échange que j'ai avec la ministre, que je vous expliquais à la fin de la chronique, eh bien, une consoeur d'un très grand média français intervient et me prend à partie devant toute l'assistance. Ambiance, soutenue par une journaliste d'une autre grande chaîne d'infos privée que je citerai pas. Elle s'est exprimée et du coup toutes les deux et deux choses. Un, les échanges entre la ministre et les journalistes sont trop longs. Voilà. Et de plus, mes questions ne sont ni en lien avec l'ordre du jour fixé par le gouvernement, le Conseil des ministres, ni avec l'actualité. On voit du coup, c'est un peu dommage parce que d'abord, c'est faux.
Durant cette dispute, les confrères adversaires des Indés expliquent leur vision assez particulière de l'indépendance du journaliste.
Si je décide d'en parler ce soir, Nadia, et puis vous ici, c'est que j'ai assisté à une prise de parti d'une consoeur, c'est quand même, au-delà de la blague, hein, c'est quand même assez, disons-le, grave, qui est allée chercher l'appui de la ministre présente pour le faire. C'est-à-dire que selon elle, notre consoeur, qui n'a posé aucune question d'ailleurs aujourd'hui, l'exercice devait être court, rapide et calqué sur le... tu vois un peu ce que je veux dire, l'ordre du jour. Donc du coup, il y a une ligne éditoriale, on peut pas demander aux gens, tu respectes ce que les thèmes imposés. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, on le fait. Hein. Tous les mercredis, pendant 10 minutes au moins, au départ, on respecte cet ordre, puisque c'est quand même l'actualité. Et après, s'élargissent les questions. Il n'y a pas de règle en l'état. Et la ministre, sent tout de suite un peu l'embrouille, donc elle va manger un morceau là-bas.
Mais tout le monde reste attentif et au débat, et une partie de l'entourage de la ministre acquiesce, c'est pour ça que je pourrais vous le raconter, en fait, parce que c'est intéressant de voir comment ça se passe, acquiesce et va dans le sens de la journaliste qui m'interpelle. Alors moi d'abord, puis Myriam Larrivé qui est aussi présente et qui se défendra elle aussi.
Ah là là, notre beau pays de cocagne. Mais les choses ne s'arrêtent pas là. Désormais, comme par hasard, on ne voit plus les journalistes qui posent des questions dans la retransmission traditionnelle de ce point de presse par l'Élysée.
Bizarre.
Bref, Arrêt sur Image a enquêté et le service de presse de l'Élysée a refusé de répondre à leurs questions. Du coup, notre confrère Robin Andraka s'est pointé au point de presse, un moment d'anthologie.
Le dispositif de cette conférence de presse, depuis le 20 mars, les journalistes qui posent des questions pendant cette conférence de presse ne sont plus filmés. C'est encore le cas aujourd'hui. Ma question est donc très simple. Pourquoi avoir supprimé le plan de coupe sur les journalistes qui posent des questions pendant cette conférence de presse?
Je ne sais pas pour vous, mais l'absence à l'antenne des visages des journalistes met encore plus en lumière le langage corporel de Prisca Thévenot et c'est assez savoureux. Mais écoutons sa réponse.
Je dois le dire, derrière la question que vous posez, il plane, et ce n'est pas ce que vous dites, mais je préfère le dire et être clair, il n'y a pas de censure de la libre.
C'est pas ce que je sous-entends.
Mais c'est pour ça que j'ai pris la précaution de dire que ce n'était pas ce que vous avez dit, mais je préfère le dire, parce que je sais que tout peut être très vite extrapolé, par ailleurs, pas par vous, mais par ailleurs, parce que c'est filmé, retranscrit en direct, et c'est normal dans un souci de transparence. Donc il n'y a pas de censure, tout se passe de la même façon depuis maintenant plusieurs années.
Mais comment ça de la même façon? Le monsieur vient de vous dire que justement, le dispositif a changé. Et puis, toute seule, comme une grande, Prisca Thévenot trahit le véritable objectif de la manœuvre d'invisibilisation des journalistes.
Donc, sur ce principe-là, moi, je me tiens devant vous pour répondre à l'ensemble de vos questions. Je pense que l'enjeu pour nous, et c'est retranscrit, c'est pas simplement de faire des capsules.
Mais ça sort d'où, tout à coup, comme ça, cette histoire de capsule ? Robin Andraka revient à la charge car elle n'a pas répondu à sa question.
D'accord, mais pourquoi du coup ce changement de dispositif ?
Il n'y a pas de changement de dispositif, c'est ce que je viens de vous dire.
Mais si, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, et là, il y a un changement de dispositif.
Si, sur les plans de coupe des journalistes. Autrefois,
c'est,
par exemple,
ça,
si j'avais...
Alors ça ne dépend pas du porte-parole, je vous laisserai, aller, je vous laisserai poser de questions au service à l'Élysée.
Si je me permets de la poser ici, c'est parce qu'en fait, je l'ai posée, qu'on nous a dit qu'on nous répondrait, ce qui n'a toujours pas été le cas.
Il n'y a pas de changement sur le process. L'ensemble des journalistes qui veulent assister...
De fait, sur le plan de coupe, oui.
Parce que vous voulez pouvoir faire, parce que vous voulez pouvoir faire une capsule ou vous regardez.
Voici leur problème. Les capsules. Le caractère viral des échanges lors d'un point de presse. Ils sont mécontents de ce que leur exercice hebdomadaire qui jusque-là n'intéressait pas grand monde, rencontre du succès. C'est comme si un gouvernement se disait démocrate mais était tout à fait satisfait des faibles taux de participation électorale et de la mal-inscription de larges pans de la population. Je dis ça, je dis rien. Au-delà de la mesquinerie de toutes ces manœuvres, cette histoire nous raconte bien où en est notre pays. Souvenons-nous. Les journalistes français n'étaient pas les derniers à pousser de grands cris quand Donald Trump tentait de modifier les règles des points de presse à la Maison-Blanche pour, entre autres, arriver à une situation à la française. En effet, quand Emmanuel Macron fait une conférence de presse, les journalistes n'ont pas le droit de le relancer. Et il y a un attaché de presse pour leur arracher le micro, circuler, il n'y a rien à voir. Et pourtant, nous sommes tous indignés du comportement de l'ex et peut-être futur président des États-Unis face à un journaliste de CNN qui lui posait des questions embarrassantes.
Honestly, I think you should let me run the country, you run CNN. All right. And if you did it well, your ratings would be much better.
If I may ask one other question, are you worried?
That's enough.
Pardon, ma'am. Mr. President.
Après cet incident, le journaliste Jim Acosta a perdu son accréditation à la Maison-Blanche. Tiens. Un peu comme le journaliste indépendant Frédéric Aiguille qui a posé une question gênante en février dernier.
Je voudrais revenir sur l'interview accordée par Stéphane Séjourné à Ouest France dans laquelle il déclare, donc dans le cadre de la stratégie sécuritaire de l'UE, je cite, « ce sera l'OTAN et l'Europe, les Européens ont besoin d'une deuxième assurance vie ». On comprend que sa réflexion est dirigée par l'hypothèse d'une attaque de la Russie contre la Pologne, hypothèse que visiblement la France juge crédible, mais qui en l'état n'est que ça, une hypothèse. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il définit les enjeux sécuritaires de l'UE uniquement par ce prisme et n'évoque à aucun moment le sabotage de Nord Stream. Or, vous le savez aussi bien que moi, le sabotage de Nord Stream, on n'est plus dans le domaine de l'hypothèse. C'est un acte de guerre avéré qui a visé les intérêts stratégiques vitaux de l'Union européenne. Il n'y a qu'à voir l'état aujourd'hui de l'industrie allemande. Ma question est donc la suivante. La Russie est-elle à vos yeux la seule menace pour l'Union européenne? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a autre chose qui est en train de se jouer sur le continent aujourd'hui, dont le sabotage de Nord Stream est l'expression?
Pourquoi la question est gênante? Parce que c'est déjà un secret de polichinelle qui sera officiellement révélé un mois plus tard. Ce sont des officiels ukrainiens qui ont saboté le gazoduc Nord Stream et précipité l'Europe dans une crise énergétique telle qu'elle a été obligée de recourir au gaz de schiste américain, au prix fort, bien sûr, embarrassant.
J'entends bien que vous considérez la Russie noce, mais qu'en est-il de Nord Stream, en fait?
Qu'en est-il de Nord Stream? Je pense que les sujets avaient été abordés à ce moment-là. Mais en fait, quelle est votre question? C'est que c'est pas que la Russie?
Ma question, c'est est-ce que vous avez une liste de suspects dans l'attaque de Nord Stream? C'est-à-dire que la Russie...
Je n'ai pas une liste de suspects à vous soumettre.
Vous n'avez aucune liste de suspects?
Je n'ai pas une liste de suspects. Cinéma... Allez-y.
Vous ne savez pas du tout qui a pu réaliser le sabotage de Nord Stream? Vous n'avez pas de suspects en tête, quoi.
Je n'ai pas une liste de suspects à vous soumettre aujourd'hui.
La semaine suivante, Frédéric Aigoui se voit retirer son accréditation pour le point de presse de l'Élysée. Les grands médias se montrent très discrets à ce sujet. Emmanuel Macron est un Donald Trump qui a réussi.